Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola.
Bien, reprenons. Lors de la séance précédente, j'avais commencé à montrer comment la peinture hollandaise du siècle d'or fait franchir une nouvelle étape à la figuration de l'ontologie naturaliste, à l'époque même où cette ontologie commence à émerger comme un discours réflexif dans les textes. La fidélité à la nature, c'est-à-dire la mise en évidence que les qualités physiques des êtres et des choses font partie d'un même continuum universel, y prend en effet une place prépondérante. Pour reprendre la distinction proposée par Svetlana Alpers, cette peinture est essentiellement descriptive, comme l'était la peinture des maîtres flamands auparavant, un art qui privilégie l'attention portée à la surface du monde et qui relève moins d'une culture narrative et textuelle, comme l'art italien, que d'une culture visuelle dans laquelle la peinture n'est qu'une composante. Interpréter cette peinture dans une perspective strictement iconologique, en cherchant à y débusquer un symbolisme caractéristique de la doctrine de lutte pictura poiesis, est donc un contresens. Il est préférable de la considérer comme une forme particulière d'usage iconique de l'espace visant à rendre visibles des qualités du monde et visant à les rendre visibles comme par une empreinte, raison pour laquelle, d'ailleurs, on a souvent comparé la peinture hollandaise à la photographie, deux entreprises mimétiques dans lesquelles le signe est à la fois icône et indice. Par contraste, avec la conception albertienne du tableau, en effet, il s'agit ici d'effacer la frontière entre l'œuvre d'art et l'œuvre de la nature, comme entre l'œuvre d'art et les autres catégories d'images. En outre, la peinture, dans la Hollande du XVIIe siècle, est l'une des manifestations d'un engouement pour l'observation qui se traduit par le succès de divers mécanismes optiques, le microscope, le télescope et la chambre noire, tout dispositif qui permettent une vue dite naturelle que les peintres cherchent à émuler, par contraste avec la vue en perspective à l'italienne, construite à partir de l'observateur. Ce contraste vient en redoubler d'autres qui permettent de différencier assez clairement l'art à visée principalement descriptive des pays du Nord et l'art principalement narratif de l'Italie, pour poursuivre cette distinction proposée par Svetlana Alpers, même s'il ne faut pas la pousser jusqu'à ses extrémités. Notamment le contraste entre, je l'avais mentionné la dernière fois, l'attention portée à une grande quantité de petites choses par opposition à un grand nombre de grandes, à un petit nombre de grandes, pardon, le contraste entre des objets qui réfléchissent la lumière et des objets qui sont modelés par la lumière, le contraste entre une image sans cadre où le spectateur n'est pas clairement situé et une image au cadre nettement défini dans laquelle le spectateur occupe une place bien déterminée. Et j'avais terminé avec deux traits caractéristiques. D'une part, le choix de ce qu'on pourrait appeler une vision anatomique des objets dans les natures mortes, vision qui révèle la physique interne de ces objets, qu'ils soient organiques ou inorganiques, et d'autre part, l'incidence de la cartographie sur la peinture de paysage, un thème que j'avais commencé à évoquer, mais que je voudrais compléter à présent. Je rappelle que le paysage lui-même, dans la Hollande de cette époque, est souvent construit selon un schème dérivé des vues topographiques représentant les villes vues que l'on retrouve dans les atlas ou dans les cartouches qui bordent les cartes géographiques. J'en avais donné un exemple, je crois que c'était la dernière image que j'avais présentée la dernière fois, par l'analogie qu'il y a entre la fameuse vue de Delft de Vermeer et cette vue topographique tirée d'un atlas. C'est une transformation, la vue de Delft, d'une certaine façon, de ce modèle cartographique dans lequel on dépeint la ville, comme vous le voyez, se découpant sur le ciel et posée sur une surface que l'on aperçoit par-delà un plan d'eau avec des petits personnages qui donnent l'échelle au premier plan. Une confirmation du rapport étroit entre les peintures de paysage et les vues topographiques est fournie par le fait que le terme « landschap », qui servait à désigner le paysage, servait à désigner tout à la fois ce que mesurait le géomètre et ce que l'artiste représentait. Et ceci, évidemment, présuppose une conception englobante de la représentation des lieux par l'image, qui recouvre la peinture de paysage, la cartographie et les autres formes d'illustration graphique, une conception dans laquelle le tableau est donc perçu comme une surface sur laquelle le monde est exprimé, sur laquelle il est inscrit, plutôt que comme une scène destinée à représenter les grandes actions humaines. La continuité entre cartographie et paysage est en particulier notable dans les conventions qui régissent les représentations cartographiques dans ces cartes si communes en Hollande au XVIIe siècle, dans lesquelles une ligne d'horizon est maintenue, quoique très haut placée, la topographie étant dépeinte en plongée oblique. Vous en avez ici un exemple. Il s'agit de quelque chose qui est à mi-chemin entre une carte et une vue panoramique en plongée, et il suffirait de basculer légèrement la figuration pour voir se dessiner un horizon dans la partie supérieure. Il s'agit donc ici de cartographie, non pas géographique au sens strict, mais chorographique, c'est-à-dire décrivant un site circonscrit avec toutes ses particularités. C'est et non pas donc une cartographie géographique représentant toute une contrée. Le genre se poursuit bien avant, en fait, dans le XVIIe siècle, comme en témoigne une vue très intéressante d'Amsterdam que vous connaissez sans doute, de Jan Mikker. C'est une vue d'Amsterdam à vol d'oiseau, mais dépeint à mi-chemin entre une carte et un paysage, vue d'avion, enfin vue d'avion, vue d'oiseau, si on peut dire, dans lequel, vous pouvez le constater, les nuages interposés entre le peintre, la position supposée du peintre et la ville, projettent leur ombre sur cette ville. Toutefois, le lien entre la cartographie chorographique paysager et le paysage proprement dit, c'est dans quelques dessins exécutés par Hendrik Goltzius dans les premières années du XVIIe siècle qu'il est le plus manifeste. En général, on crédite Goltzius d'avoir produit les premiers paysages réalistes hollandais avec ses dessins faits d'après nature. En voici un bon exemple, hein, ce paysage de dunes près de Harlem. Et l'on voit ici que Goltzius, en réalité, suit les conventions de la cartographie chorographique avec une ligne d'horizon assez haute et des points de repère facilement identifiables, des clochers, des beffrois, des maisons. Dans ce dessin, au fond, de même que dans toute la tradition de paysages panoramiques qui va suivre, la surface et l'étendue sont accentuées aux dépens du volume et de la masse, comme dans une carte. Comme dans une représentation topographique encore, il n'y a pas ici de processus véritable d'encadrement du type de ceux que l'on trouve dans la perspective albertienne appliquée au paysage et qui sont évidemment destinés à assigner une place au spectateur comme qui est évidemment celle à partir de laquelle le peintre avait construit sa vue. La surface ici de la Terre a été transformée en une surface à deux dimensions, sans pourtant que cela ne suppose véritablement une localisation de l'observateur, et c'est évidemment d'autant plus manifeste avec ces grands paysages plats des Pays-Bas. Bref, tout comme une carte, il s'agit d'une description du monde. Ce paysage, d'ailleurs, ce type de paysage cartographié, en quelque sorte, va se retrouver par la suite dans bien des vues beaucoup plus célèbres, par exemple de Van Goyen ou de Ruisdael, en particulier avec le traitement du ciel chez Ruisdael. Alors, après avoir examiné la façon dont la peinture hollandaise du XVIIe siècle procède à une description du monde en rendant visibles les qualités physiques des objets que ce monde contient, à la fois minutieusement singularisés dans leur apparence et homogénéisés par la manière dont cette apparence est rendue, examinons à présent le traitement que cette peinture réserve à la figuration de l'intériorité humaine, le second pilier de la figuration naturaliste. Notons d'abord que si les portraits, soit individuels, soit de groupe, sont très communs dans la peinture hollandaise et fournissent aux peintres une partie de leur revenu régulier, même une grande partie de leur revenu régulier, la peinture dite de genre, c'est-à-dire des tableaux décrivant des événements de la vie quotidienne, ce sont ces tableaux qui ont assuré à la peinture hollandaise sa postérité. Et ces tableaux, eh bien, ils ne comportent en réalité, par rapport aux portraits, que des personnages anonymes. Ménagères, mères de famille, soldats, enfants, petites filles, servantes, tous les êtres figurés sont des types communément rencontrés et non des individualités immédiatement identifiables. Par contraste avec le portrait, dans lequel l'environnement et le contexte d'action sont au service de la vérité du personnage, dans la peinture de genre, c'est le contraire qui se passe. L'être figuré, il est fonction de l'action qu'il accomplit ou de la situation dans laquelle il est pris. Et cela ne signifie pas que la peinture de genre serait narrative, par contraste avec les paysages, les scènes d'intérieur et les natures mortes qui seraient purement descriptives. La plus grande partie de la peinture de genre hollandaise me paraît également descriptive, en ce sens que, à l'instar de l'art de la peinture de Vermeer que j'ai commenté dans la dernière leçon, elle est, ce style, la peinture de genre, une description pragmatique des ressorts de l'action, mais elle n'indique rien de la signification que revêt cette action, tant pour le spectateur que pour les personnages qui la réalisent. Bref, les êtres dépeints ont une intériorité évanescente et un moi indécidable, car ils sont la simple instanciation typique de ce qu'une scène typique exige. À cela s'ajoute que la scène typique ne l'est pas autant qu'on pourrait le penser et qu'une très grande latitude d'interprétation est laissée au spectateur quant à ce qui se passe réellement sur la toile, ce qui contribue évidemment encore plus à vider, pourrait-on dire, les personnages d'une intériorité reconnaissable. Voyons ce qu'il en est avec deux peintres qui illustrent chacun à leur façon ce caractère indéchiffrable des intériorités, Pieter de Hoogh et Gerard Terborch. Commençons par de Hoogh. En première approximation, l'œuvre de Pieter de Hoogh semble donner raison aux historiens de l'art que j'ai évoqués lors de la dernière leçon, qui défendent une approche symboliste, allégorique et narrative de la peinture hollandaise. En effet, bon nombre des tableaux de Hoogh représentent les vertus domestiques, telles que les femmes en particulier les illustrent et dont il fait l'éloge avec une maîtrise d'ailleurs stupéfiante, notamment grâce à un rendu sans précédent de la lumière. On en a ici un bon exemple. Je ne sais pas si les images sont au centre. Ah oui, non, sur mon ordinateur, elles sont déformées, mais sur l'écran, elles ne le sont pas, ça va. Comme l'écrit Todorov dans son essai sur la peinture hollandaise, dont je suis ici certaines analyses, je le cite Todorov, « lumière et vertu semblent se désigner mutuellement ». Dehour peint aussi des tableaux critiquant ce qui semble être l'amour vénal. Donc là aussi, on est, semble-t-il, dans le style allégorique. Le plus connu, c'est un tableau que vous pouvez voir au Louvre, qui est « La buveuse ». Alors, on a bien l'impression, dans ce tableau, et c'est ce que la tradition interprétative a retenu, qu'il s'agit d'une femme de petite vertu, et derrière probablement une entremetteuse, que les deux hommes sont en train d'énivrer systématiquement. Le tableau à droite, en outre, représente le Christ et la femme adultère, de sorte que la fonction critique de ce tableau, en principe, ne devrait pas souffrir discussion. Pourtant, on peut se poser des questions. Est-ce que cette débauchée à Languille ne feint pas, au fond, l'ivresse ? Ne s'agit-il pas d'une femme mélancolique ou affligée que des amis tentent de dérider ? Les deux hommes n'ont par ailleurs aucunement l'air salace ou égrillard. Ils ne sont pas empressés ou insistants. Ils sont plutôt décontractés, voire même un peu contemplatifs. Donc il subsiste dans cette peinture qui est censée représenter une scène de séduction et la critiquer vivement, il subsiste dans cette peinture que l'on présente comme une dénonciation morale une grande part d'ambiguïté, une grande latitude d'interprétation qui ne permet pas aussi aisément que cela de lire dans l'âme des personnages de cette scénette. C'est encore plus manifeste avec un autre tableau de Hour dont le thème est assez proche. C'est la femme avec des soldats qui se trouve à la National Gallery. Là encore, on a deux soldats. Mais la femme, de dos, nous cache sa contenance. C'est d'ailleurs une caractéristique de beaucoup de tableaux de Hour. Et elle semble goûter le vin dont elle examine la couleur, la robe, plutôt que de s'enivrer. La femme à droite, c'est une servante, ce n'est pas une entremetteuse, c'est un personnage neutre. Et le tableau au-dessus de la cheminée représente l'éducation de la Vierge, ce qui n'incite pas du tout à une interprétation licencieuse. Bref, là encore, c'est une scène de désœuvrement, empreinte de rêverie, d'une gaieté douce, qui est dépeinte, ce n'est pas, me semble-t-il, une condamnation morale. Une autre façon d'introduire de l'ambiguïté consiste à juxtaposer des éléments qui sont en apparence contradictoires. C'est le cas de cette peinture de Hour qui représente des buveurs dans une cour intérieure. Dans ce tableau, on a, nous dit-on, une scène typique de dénonciation de la débauche. À droite, sous la tonnelle, vous avez une femme qui tient un verre, en compagnie de deux hommes qui fument et qui boivent. À droite, en revanche, on change de registre puisqu'on a une enfant avec son petit chien qui renvoie aux images de félicité domestique tout à fait classiques des scènes de certaines des scènes de Hour et qui semble contredire la scène à droite. Au fond, laquelle de ces deux scènes donne la tonalité du tableau ? S'agit-il d'une débauchée qui a abandonné sa fille ou sa petite sœur pour aller flirter avec des soldats ? Ou bien s'agit-il tout simplement d'une mère de famille qui tient compagnie dans l'arrière-cour de sa maison un moment à son mari recevant un ami. Bien malin qui pourrait le dire. Dans un tableau qui reprend les mêmes éléments architecturaux, Dehour situe une toute autre scène. Donc vous reconnaissez le décor, il est exactement identique, même si le fond n'est pas ce sur quoi débouche le couloir n'est pas la même chose. Et dans l'espace qui était auparavant occupé par la tonnelle, il a mis une mère et son enfant, tandis qu'une femme, dans le couloir, en enfilade, regarde vers l'extérieur. C'est une scène, donc, là aussi, de bonheur domestique, de tranquillité domestique, qui baigne dans la même lumière paisible que l'autre. Et au fond, cette courette de Delphes accueille indifféremment toutes sortes de personnages dont les actions ne sont pas aisément déchiffrables et qui n'ont pas, au fond, de véritable nature en propre. Qui nous dit, en fait, que la mère de ce tableau n'est pas la jeune femme du premier. Les personnages, ici, au fond, ne sont que des émanations de situations, elles-mêmes assez souvent énigmatiques, de sorte que le moi de ces citadins tranquilles finit par perdre une grande partie de sa singularité, voire de sa consistance. Et ceci est peut-être encore plus net dans les tableaux de Gérard Terbor. Chez lui, l'ambiguïté ne procède pas de la latitude dans l'interprétation, elle est constitutive de la description même qu'il propose du monde. Du reste, Terbor est un portraitiste de talent et il a lui aussi, plus encore que De Hoogh, souvent peint des personnages de dos, dérobant ainsi leur visage et dérobant les clés d'une possible interprétation de l'intériorité du personnage. Même dans des scènes en apparence sans équivoque, comme celle-ci qui est très connue, le galant militaire qui est au Louvre, en fait, une relative indécision est possible. On peut interpréter cela à la manière allégorique, comme une scène de séduction. On voit bien que l'homme propose de l'argent à la jeune femme, il a des pièces dans la paume de la main, et elle-même boit du vin et mange des huîtres qui sont, en principe, dans la symbolique classique qui permet d'interpréter ce genre de tableau, des symboles de licence et de vie dissolue. Pourtant, ce soldat pansu a un air tout à fait débonnaire, qui paraît démentir sa proposition, il n'a pas l'air vraiment d'y croire lui-même, tandis que, au fond, la contenance assez modeste de la jeune fille, ses yeux qui sont chastement baissés, l'espèce d'abattement dont ses traits sont empreints, ne concorde pas du tout avec l'image d'une courtisane qui s'apprête à monnayer ses services. L'ambiguïté croît lorsque la situation devient encore moins immédiatement interprétable, comme par exemple dans ce tableau de Terbor qu'on appelle La Dépêche. La relation entre les deux personnages est en réalité ici malaisée à interpréter. En principe, la toile représente un officier en train d'écrire une lettre, tandis que le messager, trompette sur l'épaule, elle est malheureusement un peu coupée dans la vue qu'on en a, attend, on suppose, pour porter ce message à son destinataire. Alors ça pourrait évoquer une opération militaire, mais la présence du chien et de l'as de cœur qui gît ici au pied du chien indique ou oriente en tout cas plutôt vers une thématique amoureuse. L'officier, ici, est le seul qui l'agit, l'autre attend. Mais il n'est sans doute pas le personnage le plus important. Il est tout entier concentré dans son écriture et il écrit, si l'on suit la thématique, les indications que donnent le chien et l'as de cœur, il écrit probablement à sa femme ou à sa fiancée. Le messager, quant à lui, a un regard tout à fait énigmatique, qui autorise de nombreuses interprétations. Est-ce qu'il pense à la femme qu'il aime et dont il n'a pas de nouvelles, pensée suscitée par l'écriture de la lettre par l'officier ? Pense-t-il à la femme de l'officier à qui il va porter la lettre ? Est-ce la même femme, au fond ? On se perd en conjectures et c'est ce qui fait, en fait, la force du tableau. C'est son ambiguïté même qui fait la force du tableau. Il en va de même pour un autre célèbre tableau de Terborch, qui est la leçon de lecture, que j'ai présentée dans l'exposition que j'ai organisée au musée du Quai Branly. Là, on a deux personnages, dont l'un est concentré dans une action, le jeune garçon, dont on dit qu'il pourrait être le frère cadet du peintre, et la femme qui tient le livre, dont le regard est tout à fait perdu dans le vide, et qui a une expression, en fait, tout aussi énigmatique. Est-ce sa mère? Est-ce sa sœur? Est-ce qu'elle écoute le garçon? Ou bien s'est-elle renfermée dans ses propres pensées? Est-ce que ses pensées sont heureuses? Est-ce que ses pensées sont moroses? Ont-elles un rapport avec ce qui est lu? C'est peut-être la Bible. Sont-elles un ressassement d'une déconvenue, d'une déception? On n'en sait rien. Lorsqu'il y a trois personnages, la situation est encore plus impénétrable. Ainsi en est-il d'un autre tableau très connu de Terborch qu'on appelle habituellement la remontrance paternelle. C'est un titre qui est manifestement peu approprié. Il a d'ailleurs été donné après coup, comme c'est le cas des titres donnés à beaucoup des tableaux de genre. En effet, le militaire est trop jeune pour pouvoir être le père de la fille à gauche, et la femme assise en train de boire n'a pas l'air d'une mère ou d'une parente. Quant à la jeune femme vue de dos, du fait même qu'elle est vue de dos, on ne sait rien de sa contenance et on ne sait rien de sa pensée. Bref, là encore, chacun des personnages est dans son monde. Et le spectateur en est réduit aux conjectures pour interpréter les liens qui les unissent. Autre trio énigmatique de Terborch, c'est celui du tableau dont le titre est « La lettre ». Alors, la lettre, c'est un thème qui est abondamment exploité dans la peinture de genre et qui permet, là aussi, de multiples interprétations. C'est le cas dans cette peinture à la pragmatique particulièrement complexe. La femme, assise devant un nécessaire d'écriture, semble avoir écrit la lettre que la femme, debout, est en train de lire. Mais il est possible aussi que la lettre ait été adressée à la femme assise et qu'elle demande à la femme debout ce qu'il convient d'en penser avant d'y répondre. Il semble que l'affaire relève du registre amoureux, ne serait-ce que parce qu'il y a la figure du chien qui indique, qui symbolise ce registre, et il s'agirait donc de confidences entre amis intimes. Mais rien ne nous oblige à croire à cette interprétation non plus. Il s'agit peut-être de deux sœurs qui reçoivent une nouvelle désagréable à propos, par exemple, de l'état de leur fortune. Le troisième personnage, le très jeune serviteur qui est en train de débarrasser la table et à qui aucune des deux femmes ne prête attention, est encore plus impénétrable. Il est, à l'évidence, fasciné par la liseuse. Il la regarde avec beaucoup d'attention. Son geste est portant le plateau est suspendu. Hein. Est-ce le contenu de la lettre qui le fascine ou est-ce la jeune femme qui retient son attention? Cette démultiplication des sentiments possibles entre les personnages est amplifiée par une démultiplication des reflets de la lumière dépeints avec virtuosité sur le tissu de la robe, bien sûr, sur le lustre, hein, là-haut, sur les meubles cirés, sur le vase et le plateau que porte le jeune serviteur, sans que l'on voie d'ailleurs la source de cette lumière, elle-même située hors champ à la droite du spectateur. C'est un peu, au fond, comme si la lumière et l'intériorité avaient le même statut. On ne peut les voir que, au fond, diffractés en mille nuances et jamais directement. Bref, chez Terborg et chez Dour, comme dans une grande partie de la peinture de genre hollandaise, l'intériorité distinctive des humains est devenue, au fond, indécise. Loin de constituer des catalogues de vertus souhaitables et de vices à combattre, banales illustrations de livres d'emblèmes, ces tableaux mettent en évidence l'ambiguïté des choix, la complexité des comportements et l'indécidabilité des sentiments. Ils rendent tangible le fait que l'âme n'est perceptible que par des effets de surface, difficiles à interpréter, des émanations des propriétés des actions et peut-être même des choses que les individus réverbèrent, tout comme la chair du citron, le cuivre du pichet ou les taffetas de la robe réverbèrent une lumière diffuse et elle-même insaisissable. De même que le dessinateur et peintre Jacques de Guaigne, on l'a vu lors de la dernière leçon, retire toute intériorité à ses personnages en les figurant de façon à révéler les spécificités de leur seule apparence physique par la multiplication des angles de vue ou bien en dépeignant dans le tableau de César dictant à ses scribes, en dépeignant leur disposition attentionnelle comme un écho de l'action dans laquelle ils sont engagés, de même, la peinture de genre dissipe-t-elle l'idée que l'intériorité serait un simple attribut intrinsèque à chaque individu, puisque cette peinture montre l'intériorité constituée par la rencontre conjoncturelle des actions des individus est devenue comme une sorte de milieu intersubjectif éclairant chaque personnage d'un reflet particulier. L'évolution du naturalisme en images est l'histoire, au fond, de l'émancipation progressive de ces images à l'égard des canons du beau et des significations symboliques, le souci de la fidélité aux choses mêmes l'emportant peu à peu sur le respect des contraintes imposées simultanément par la tradition religieuse, d'une part, et par l'idéal esthétique de lutte pictura poesis. La peinture hollandaise de l'âge d'or offre un bon exemple de cette tension qui fait peu à peu prévaloir les exigences de l'exactitude descriptive sur la narration et sur l'édification morale. On vient de le voir. Mais c'est sans doute autour du corps humain et de sa figuration que le divorce sera finalement consommé au siècle suivant, et en France en particulier, avec la généralisation progressive de l'enseignement d'anatomie dans les beaux-arts. Non pas, bien sûr, que la dissection et la figuration anatomique est attendue le XVIIIe siècle pour se généraliser en Europe. Les images anatomiques de la Renaissance sont bien connues, notamment celles de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et surtout de Vézal, dont le fameux traité d'anatomie « De humani corporis fabrica » de la fabrique du corps humain de 1543, a connu pendant plusieurs siècles une diffusion tout à fait considérable lorsque ces quelques 300 illustrations n'étaient pas tout simplement recopiées par des auteurs postérieurs de traités d'anatomie. En outre, et contrairement à une certaine tradition historiographique qui présente l'Église comme fondamentalement hostile à la dissection, et qui célèbre le courage et la lucidité de ces héros de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle qui bravèrent cet interdit pour faire progresser la science, en réalité, l'habitude d'ouvrir et d'inspecter les cadavres remonte au moins au début du XIVe siècle en Italie du Nord. Comme l'a bien montré l'historienne des sciences Catherine Park dans son livre Secrets of Women, Gender, Generation and the Origins of the Human Dissection, qui a été traduit il y a peu de temps en français, au fond, la dissection a prospéré à partir de 1300 en Italie du Nord et dans une moindre mesure dans le sud de la France, à l'extérieur des collèges et des universités, autour d'un ensemble de pratiques culturelles ad hoc qui sont les rituels funéraires, et en particulier l'embaumement par éviscération, le culte des reliques, c'est-à-dire tout simplement le démembrement des saintes dépouilles, mais qui était fait quand même de façon technique et pas par simple arrachage des lambeaux du corps des saints, les autopsies pratiquées dans le cadre de la justice pénale et des opérations de santé publique, et la pratique de l'accouchement que l'on appelait par la suite par césarienne sur des femmes qui étaient mortes en couche et dont il fallait extraire le fœtus. Quant aux images anatomiques fondées sur la dissection, elles apparaissent dès la première moitié du XIVe siècle, c'est-à-dire près de deux siècles avant le traité de Vésal, et elles deviennent assez communes au XVe siècle. Il y a donc une longue histoire de la figuration anatomique en Europe, et même dès la Renaissance, il y a une opposition assez nette entre une approche que l'on pourrait qualifier de plutôt réaliste, qui est illustré par Vésal, par Charles Étienne, par Léonard de Vinci, par Bandinelli, une extraordinaire sculpture d'un écorché figuré dans la posture du faune dansant, et puis d'un autre côté, une approche plus idéaliste, caractérisée par la quête de l'harmonie géométrique plus que par la fidélité à l'anatomie, qui est très bien illustrée par Dürer, en particulier par le traité de Dürer sur les proportions du corps humain. Ce que le XVIIIe siècle apporte de nouveau, c'est une lente émancipation de la figuration du corps humain, émancipation d'un canon idéal de la beauté antique. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a au fond un mouvement d'immanentisation qui débute à la Renaissance avec le déplacement du modèle de la perfection humaine depuis un idéal divin irreprésentable vers une intériorité subjective idéalement harmonieuse. Et ce mouvement d'immanentisation, il s'achève dans les dernières années du XVIIIe siècle avec l'effacement de l'intériorité et, en quelque sorte, la disparition de la trame spirituelle. Et c'est ce qu'on va voir en regardant la façon dont l'anatomie a été enseignée à l'Académie royale de peinture. Je me fonde là sur un essai de Philippe Comard, qui enseigne lui-même la morphologie à l'École des beaux-arts et qui a fait une analyse de la façon dont l'anatomie avait été enseignée au cours du temps lorsqu'il a organisé cette très belle exposition que certains d'entre vous ont peut-être vue aux Beaux-Arts qui s'appelle « Figure du corps », qui est maintenant terminée. Alors, le premier enseignement d'anatomie à l'usage des artistes, il est donné en France à l'Académie royale de peinture et de sculpture par un chirurgien du nom de François Catroux, à partir de 1666. Et dans le même temps, un autre professeur de l'Académie, François Torteba, publie une année après, en 1667, un abrégé d'anatomie, mais qui est illustré pour l'essentiel par les planches du traité de Vésal, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, mais qui connaîtra un grand succès auprès des artistes. Par exemple, Cézanne en a encore un. dès cette époque s'oppose le point de vue des anatomistes, attaché à l'exactitude de la description, et le point de vue des artistes, qui abordent l'anatomie avec des prescriptions et des intérêts plus plastiques. L'apprentissage du nu ne doit pas se faire seulement en observant des cadavres disséqués et des écorchés, mais aussi en étant attentif au modelé des sculptures antiques. À l'Académie, c'est le deuxième point de vue, évidemment, qui prévaut. Et cette approche ne se dément pas au cours des décennies qui suivent. La référence à l'antique domine les conceptions du modelé. Il faut en particulier éviter de faire saillir trop les muscles, se garder de ces écorchés, bosselés de muscles nourris de dissection, telle la statue de l'écorché attribuée à Michel-Ange. Et parallèlement, les livres à dessiner prolifèrent. L'un des plus connus étant celui d'Abraham Boss. Ce sont des catalogues de fragments humains, en fait. Des pages de nez, de bouche, d'oreilles, de têtes, de toutes les formes possibles et imaginables qu'il suffit d'emboîter, de recomposer, l'anatomie se ramenant finalement à une sorte de collage d'éléments disparates. L'anatomie est enseignée par des chirurgiens jusqu'en 1737, où l'Académie supprime le cours et préfère l'étude du modèle vivant et l'étude d'après l'antique et d'après les dessins des maîtres, c'est-à-dire l'apprentissage par l'exemple. La recherche, donc au début du XVIIIe siècle, la recherche de l'exactitude anatomique est perçue comme un dévoiement, la conformité trop étroite au modèle ne pouvant que nuire, au fond, à la belle manière et à la quête du beau idéal. On y voit en outre un asservissement aux sciences, qui est contraire à la doctrine de Lut Pictura Poesis. Les arts n'ont pas pour fonction de décrire la réalité, mais de peindre les passions. C'est donc la recherche de l'expression qui prime. On est en plein dans le modèle de l'art narratif, et non pas descriptif. Les choses commencent à changer néanmoins à partir du milieu du XVIIIe siècle. En 1746, c'est à nouveau un chirurgien qui va enseigner pendant longtemps à l'Académie, qui reprend l'enseignement de l'anatomie aux élèves de l'Académie royale, mais à l'extérieur de l'établissement, hein, c'est dans un hôpital et pas à l'Académie. En 1748, il publie, c'est donc Jean-Joseph Sue, il publie un abrégé de l'anatomie du corps de l'homme qui est très marqué par les conceptions mécanistes de Descartes et qui est tout à fait aux antipodes, évidemment, des vues de l'Académie. Le corps est au fond une machine articulée, faite de leviers, de soufflets, de pompes, etc., beaucoup plus proche d'un engin hydraulique que d'une statue grecque. La même année, Julien de la Mettrie publie « L'homme-machine », qui est sans doute le premier ouvrage qui fait explicitement de l'esprit un prolongement physique du cerveau et le précurseur, à ce titre, des thèses physicalistes de la fin du XXe siècle. Le livre de la Mettrie, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas très bien reçu et il est forcé de quitter Leyde, où il vivait. Et le livre qu'il avait publié d'ailleurs 2 ans auparavant, un peu sur le même thème, « L'histoire naturelle de l'âme », fut condamné et brûlé par arrêt du Parlement de Paris. Cela n'empêche pas les thèses mécanistes de connaître un certain succès, en tout cas un succès de curiosité, et pour leurs manifestations, disons, les plus pittoresques. Au premier rang de ces manifestations pittoresques figurent les automates. Et bien évidemment, ceux qui sont les plus connus à l'époque, les automates de Vaucanson, qu'on peut donc voir en public, le joueur de flûte, le canard, que le public parisien admire pour le réalisme de leurs mouvements, y compris le réalisme de l'appareillage interne, de mécanisme interne qui simule le souffle pour le joueur de flûte ou la digestion pour le canard. Vaucanson est lui-même émulé par d'habiles mécaniciens comme Pierre Kinzig et David Röttgen qui fabriquent en 1772 une admirable joueuse de tympanon pour Marie-Antoinette qui est encore visible au CNAM ou par les frères Jacquet de Rose en Suisse. Mais au-delà de la fascination pour ces ingénieuses machines, au fond, les automates valident la réduction de la complexité des fonctions organiques à des mécanismes physiques que la métrie défend. À cette époque aussi, de nombreux cabinets anatomiques ouvrent à Paris et des ouvrages étonnants commencent à être publiés qui introduisent en quelque sorte l'anatomie dans la vie quotidienne. C'est le cas des ouvrages de Fabien Gauthier d'Agoty qui vulgarise en couleur les connaissances anatomiques en présentant d'accortes jeunes femmes proprement écorchées, chair et viscères complaisamment exposés. Celle-là est très connue parce que elle a frappé l'imagination des surréalistes. Ainsi en va-t-il aussi des planches du grand anatomiste hollandais Albinus, qui montre des écorchés sveltes et harmonieusement proportionnés, sans aucun des effets dramatiques propres au traité anatomique de la Renaissance, plantés dans un décor, voilà un bon exemple, qui oscille entre jardin botanique et nature sauvage, à la manière des décors tropicaux bien léchés que les illustrations de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre vont mettre à la mode une quarantaine d'années plus tard. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont intéressants parce qu'ils font le contraste entre l'écorché et puis des animaux à peau dure, des éléphants, des rhinocéros, etc. Donc l'absence de peau, l'absence d'écorce contre l'écorce développée. Toutefois, il existe encore un abîme entre la vision du corps selon les beaux-arts, et c'est-à-dire défendue par l'Académie, et celle des anatomistes. La vision défendue par les beaux-arts défend une esthétique à fleur de peau, orientée vers les mouvements de surface, d'un corps saisi par les passions, tandis que les anatomistes s'efforcent d'explorer, de décrire et de représenter le corps profond, le corps caché, l'appareillage de nerfs, d'os et de muscles qui constituent la structure physique des expressions morales. Philippe Comard, dans le catalogue de l'exposition que j'évoquais tout à l'heure, voit dans ses perspectives antithétiques, je le cite, « l'envers et l'endroit d'une même inquiétude au sujet du corps ». Et il est vrai que cette inquiétude prend une forme, ou en tout cas cette préoccupation, prend une forme exemplaire dans le contraste entre les deux cousins fragonards. Jean Honoré, le peintre du frivole et de l'érotique, incomparable pour rendre le modelé des cuisses laiteuses et des seins qui palpitent sous les corsages, et Honoré, le célèbre et sévère anatomiste, qui invente une technique de préservation des cadavres lui permettant de les exposer dans des poses spectaculaire. Et là, la comparaison des deux cousins est absolument exemplaire pour montrer deux orientations, au fond, assez divergentes de ce qu'est le corps à cette époque. Les deux cousins illustrent, au fond, cette tension entre le dévoilement d'une physicalité qui inscrit l'homme dans le règne de la nature, d'une part, et la représentation des affects propres au génie de l'homme, d'autre part. Comme l'écrit encore Comard, je le cite, « Le XVIIIe siècle, léger, brillant, galant, spirituel, séducteur, est aussi celui où l'on dissèque, écorche, ampute, éviscère, momifie, avec une ardeur encore jamais vue. » Alors, il est vrai que l'histoire de l'art a surtout retenu les noms des peintres délicats de l'intériorité et du sentiment, les Boucher, Greuze, Fragonard, Watteau, pour qui, d'ailleurs, les émois du cœur ne se distinguent pas tant des émois physiques, laissant les images de l'homme-machine, les écorchés, les automates, les cires anatomiques, à l'histoire des sciences et des techniques. Les premiers sont exposés au Louvre, les autres sont visibles au musée des arts et métiers, au muséum, dans les facultés de médecine. Mais comment ne pas voir que ce sont ces images-là auxquelles il faut rajouter les flores et les faunes illustrées, les premiers dessins ethnographiques, les croquis topographiques, qui témoignent en réalité le plus vivement de l'ontologie, de l'évolution en tout cas de l'ontologie naturaliste, vers une réduction de l'intériorité et de la vie à des paramètres intelligibles parce que figurables dans leur dimension physique. La dissociation entre le point de vue des anatomistes et celui des artistes quant à la vraisemblance de la description des corps est très marquée encore à l'Académie des Beaux-Arts. On est donc au début de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'étude du squelette y est privilégiée par rapport à l'étude des muscles, car l'étude du squelette alimente les théories classiques sur la symétrie et la proportion, mais comme elle demeure pour l'essentiel invisible, elle laisse à l'artiste cette part d'interprétation, d'innovation, sans laquelle il ne peut atteindre le beau idéal, c'est-à-dire conforme évidemment au canon classique. L'ostéologie a cet avantage de combiner la géométrie, c'est-à-dire la satisfaction de l'intellect issu de l'équilibre mathématique des formes, et l'anatomie, c'est-à-dire la fidélité à l'observation de la nature. En revanche, l'étude de l'enveloppe extérieure, les muscles et la graisse, implique une approche réaliste du corps, un mimétisme servile qui éloigne de la recherche de la beauté. C'est du moins le point de vue de l'Académie. Analysant les programmes d'enseignement et les manuels d'anatomie utilisés à l'Académie des Beaux-Arts dans les années 1750-1770, Philippe Comard montre bien comment, au fond, le modèle de beauté tiré du canon antique y tient toujours la première place au détriment de l'anatomie, dont les planches, au fond, continuent d'être tirées de l'Atlas de Vésal. On est en plein néoclassicisme, c'est-à-dire dans la nostalgie d'un idéal de la beauté incarnée par la statuaire grecque, dont l'observation des corps réels, dans leur variété, dans leur apparence éphémère, ne peut aboutir qu'à une désacralisation. Diderot lui-même, pourtant matérialiste et épris des techniques, et qui n'est pas hostile par principe à l'anatomie, craint néanmoins que le beau naturel ne parasite le beau idéal, qu'il le trivialise. Je cite Diderot, « N'est-il pas à craindre que cet écorché ne reste perpétuellement dans l'imagination, que l'artiste n'en devienne entêté de la vanité de se montrer savant, qu'en dépit de la peau et des graisses, il n'entrevoit toujours le muscle, son origine, son attache, son insertion, qu'il ne prononce tout trop fortement, qu'il ne soit dur et sec, et que je ne retrouve ce maudit écorché même dans ses figures de femmes. » C'est dans mes pensées bizarres sur le dessin de 1766. Alors peut-être pense-t-il à ces belles écorchées en couleur précisément de Gautier d'Agoty, dont on sait qu'avant les surréalistes, elles provoquèrent beaucoup d'émoi chez les contemporains. En 1769, un brusque revirement s'opère. Et ce revirement, en fait, il est dû non pas à un anatomiste, mais à un grand artiste. Cette année-là, en effet, Jean-Antoine Houdon offre à l'Académie une réplique de l'écorché au bras tendu qu'il vient de réaliser à l'Académie de France, à Rome. Il a 28 ans. C'est l'un des moulages. À l'origine, cet écorché est une étude préparatoire, modelée en terre, que Houdon a réalisée pour un Saint Jean-Baptiste qui lui a été commandé par l'église des Chartreux. Houdon est un anatomiste attentif qui se rend tous les matins lorsqu'il est à Rome à l'amphithéâtre de dissection de Saint-Louis des Français pour suivre les leçons d'anatomie que le chirurgien Séguier dispensait sur des cadavres. Houdon bénéficie d'ailleurs des conseils de Séguier qui vient régulièrement examiner la figure. Et c'est alors qu'il s'apprête à compléter son étude anatomique et à faire la statue en la recouvrant de sa peau et de ses vêtements, que tous ceux qui ont vu la figure, ses camarades à l'école de Rome et même le directeur de l'école, l'engagent à la faire mouler car ils jugent tous que c'est la meilleure statue anatomique qui ait été réalisée à ce jour. Pourtant, tout en étant fidèle à l'anatomie, Houdon n'a pas recherché véritablement l'exactitude parfaite. Les volumes sont simplifiés. Des reliefs du torse sont effacés, d'autres sont soulignés. Les muscles antagonistes sont contractés au détriment de toute vraisemblance de façon à accentuer la torsion et le dynamisme du mouvement. Mais le succès de l'écorché est immédiat. Non seulement l'Académie accepte le don, mais il est rapidement acquis par toutes les grandes académies d'Europe qui le tiennent pour un modèle légitime dans l'enseignement de l'anatomie. En effet, il est à la fois précis anatomiquement, mais avec des formes épurées qui se conforment à l'esthétique classique. Le modèle de l'écorché va aussi avoir un effet d'entraînement et susciter un très vif intérêt pour les études anatomiques parmi les artistes. Désormais, la dissection est enseignée, et elle est enseignée à l'école de dessin. C'est le nouveau nom que l'Académie prend après son abolition en 1793 par la Convention. Elle renaît 6 mois plus tard sous le nom d'Académie de dessin. Le professeur, toujours Jean-Joseph Su, fait maintenant les dissections dans le cadre de l'Académie, et il combine l'étude du cadavre, l'étude du vivant et l'étude de l'antique, à quoi il ajoute l'étude de la physiognomie, dont il est un fervent adepte. En outre, à cette étude de la façon dont les traits moraux correspondent à des traits physiques, il joint l'étude des différences sexuelles, des variations de forme avec l'âge, des types et des races, et même celle des déformations physiques liées aux coutumes des diverses populations. Bref, l'enseignement des beaux-arts à la fin du XVIIIe siècle, l'apprentissage dans l'art de produire des images des humains inclut désormais ce que l'on pourrait appeler une anthropologie physique comparée, c'est-à-dire une étude systématique des variations de la singularité morale en fonction des caractéristiques physiques. Et la dissection joue un rôle central dans ce processus, car, comme l'écrit Jean-Joseph Su, donc le professeur d'anatomie, je le cite, « il faut connaître tout le mécanisme intérieur afin de mieux saisir tous les changements qu'il peut amener à l'extérieur. » Autrement dit, l'artiste ne doit plus seulement imiter la nature, décrire au plus juste, il doit, dans une démarche qui rappelle le désir de fidélité à la vision naturelle qui caractérise la peinture hollandaise au siècle précédent, il doit rendre compte de ce qu'il a expérimenté lorsqu'il a porté le scalpel dans le dédale de cette machine admirable, comme l'écrit encore Jean-Joseph Su. Et cela, non pas seulement dans un souci d'exactitude mimétique, mais parce que l'expérience du corps éventré, coupé en morceaux, démonté et remonté, conduite à se défaire de toutes les images préexistantes, de toutes les conventions préalables dans la figuration du corps humain. Devant un modèle, devant un corps nu mais vivant, on voit au fond ce que les contraintes culturelles de l'époque nous amènent à voir. Ce que l'œil formé par l'étude du nu classique a appris à discerner. L'expérience de la dissection, en revanche, permet d'effacer, de rebattre les cartes, d'effacer les schèmes visuels transmis par la tradition, permet au fond de recomposer ex nihilo des corps réduits à leurs composantes physiques les plus élémentaires. Alors les écorchés ont dénoué le lien entre le corps et la beauté intérieure que le nu avait longtemps tenu réuni. Il révèle sans équivoque que derrière la peau diaphane, derrière les chairs souples, se cache finalement le même genre de muscles et de viscères que celui des animaux. Le corps, à la fin du XVIIIe siècle en Europe, devient alors vraiment nu, mais d'une nudité terrible, car dépouillé en même temps que de son épiderme, de la trame spirituelle qui l'habillait. Il n'est plus le chiffre sensible de l'intériorité, pour reprendre la belle formule de Jean-Marie Schaeffer, mais il est une image, il est devenu une image de surface, physique, de part en part, frayant la voie vers deux possibilités qui sont en fait équivalentes. L'Olympia de Manet, impudique dans la nudité des désirs qu'elle stimule, et l'imagerie scientifique, pure trace indicielle du monde matériel tel qu'il est. Et c'est cette deuxième voie que nous examinerons dans la prochaine leçon.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.